realismo a niente servirà. Se quella gente morire dovrà, perché la terra lo stesso girerà, per sempre il sole nel cielo brillerà. La povertà non finirà, mao mao, la guerra sempre ci sarà, mao mao, ma poi la storia ci dirà che tutto uguale resterà, mao mao, ci sarà sempre chi saprà, mao mao, cogliere un fiore più di te, mao mao.
La del sole crescente, ma dove
l'imperialismo non sempre servirà. Se poi la gente morire dovrà, perché la terra lo stesso girerà, per sempre il sole nel cielo brillerà. La povertà non finirà, mao mao, la guerra sempre ci sarà, mao mao, ma poi la storia ci dirà.
Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, il faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose, parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Bon, je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires. Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est la nuit, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Alors moi je suis Quentin, je suis
Alors bonsoir.
Ouais, non,
nous c'est Quentin. Ouais.
Quentin ne participera pas cette semaine au Canu Info puisque il est 19h05 et que c'est le Canu Info du lundi sur Radio Canu, la plus rebelle des radios.
Et aujourd'hui, à l'international, on va parler d'une manif à Buenos Aires, de l'ouragan Irma. Au national, des petits punchlines de Macron sur les fainéants. de Jean-Claude Mailly, ce traître, une nouvelle fois, hein, on en a déjà parlé la semaine dernière, aussi de ce qui s'est passé à Bure et de la répression policière qu'il y a eu.
Très violente.
Et ensuite, on va parler de la loi travail, des conséquences pour les femmes, d'une future réforme, d'une possible future réforme du SMIC, avant de s'intéresser à la guillotière et la gentrification de la guillotière dans un dossier, un petit reportage.
Alors, petit rappel, hein, la semaine dernière, on avait déjà parlé dans l'émission donc, d'un militant pro-Mapuche en Argentine, Santiago Maldonado. Pro-Mapuche, donc, c'est-à-dire contre l'expropriation de leurs terres par des multinationales étrangères. Ce militant a été enlevé par la gendarmerie lors d'une violente opération. Début août, le 1er août. Depuis, personne ne sait où il est. Ces enlèvements qui rappellent du coup les enlèvements de la dictature de Videla. Eh bien, il y a une mobilisation internationale. J'en avais parlé déjà la semaine dernière. Et dans la capitale, Argentine, eh bien, il y a eu une manifestation absolument monstrissime puisque plus de 250 000 personnes se sont retrouvées dans les rues de la capitale pour dénoncer à la fois l'enlèvement de Santiago Maldonado, la répression policière violente contre les militants, les militantes et contre les communautés mapuchées. Et pour imposer à Macri le fait de lancer une enquête sur cette disparition, puisqu'on rappelle que ce sont les gendarmes qui ont enlevé Santiago Maldonado. Voilà, donc c'était pour faire une petite continuité de l'info de la semaine dernière.
Voilà, et tous les animaux sont égaux, mais certains plus égaux que d'autres. Cette formule de l'écrivain britannique George Orwell dans La ferme des animaux sied parfaitement la situation actuelle du côté de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Depuis le passage de l'ouragan Irma aux alentours de ces îles, plus Barbuda, mercredi 6 septembre, le paysage s'apparente à un champ de bataille. Au jeu du sauvetage des rescapés et de leur rapatriement en Guadeloupe, les touristes et les métropolitains, les blancs en somme, sont les vainqueurs haut la main. Le traitement de la catastrophe fait par les masses médias tourne autour d'un angle prioritaire, la sécurité face au pillage. Mais avec une ou deux bouteilles d'eau distribuées par famille, et alors que Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont privés d'eau et d'électricité, de toit et de nourriture, depuis plusieurs jours, ces vols répondent à l'instinct de survie, relèvent davantage de la réappropriation. Qu'à cela ne tienne, la métropole, plutôt que de secourir la population, envoie 2000 militaires, le GIGN, le GIPN, une gestion coloniale comme il se doit de la part d'une métropole impérialiste qui gère ses colonies comme des colonies. Aucune anticipation de cet ouragan de catégorie 5 s'approchant des îles n'a été organisée. La métropole aurait pu évacuer en masse les populations avant le désastre, mais rien. Les services de soins ont été mobilisés en Guadeloupe, mais au final, seuls les Blancs peuvent y accéder. Quant aux multinationales, elles en profitent pour faire exploser les prix. Pour entrer en Guadeloupe, Air France propose un aller simple entre 1150 euros et 3500 euros. Une pétition tourne aussitôt remerciant, je cite, « notre gouvernement de laisser ces superbes compagnies se faire du fric sur le dos des familles qui souhaitent évacuer ayant tout perdu et n'ayant pas d'abri ». La pétition affirme également qu'avant l'arrivée d'Irma, Air France avait déjà gonflé ses tarifs pour les familles qui voulaient évacuer ou au moins leurs enfants jusqu'à 4500 euros le vol aller Saint-Martin vers Paris. La compagnie aérienne, prise en flagre d'inhumanité, dément aussitôt et propose un tarif de 300 euros victime de l'ouragan pour rejoindre la Guadeloupe, mais bizarrement, aucun vol ne part. De son côté, Amazon se distingue en proposant des packs d'eau potable à 100 dollars, surfant allègrement sur la tragique pénurie. Business is business. Là encore, pris la main dans le sac grâce aux réseaux sociaux, la multinationale s'est vue dans l'obligation de retirer ses offres scandaleuses. Dans les prochains mois, une phase de réparation, de rénovation immobilière devra nécessairement avoir lieu, bien qu'elle risque d'être entrecoupée par de nouveaux cyclones et ouragans de type Irma à l'avenir. Étant donné que la saison des cyclones dans l'Atlantique Nord est entre mai et novembre. Toujours est-il que la rénovation des habitations à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, pour prendre le cas de ces îles sous l'administration française, devrait coûter plusieurs milliards d'euros. Mais là encore, tout le monde ne sera pas logé à la même enseigne. Les premiers bâtiments rénovés seront ceux qui ont plus ou moins résisté au passage de l'ouragan Irma et sur quoi ça planchera en priorité. C'est-à-dire les villas, les résidences hôtelières, afin de remettre à flot une économie exsangue, car fortement dépendante du tourisme. Et puis bien plus tard, si les crédits alloués le permettent encore et que les politiques d'austérité ne viennent pas les contrecarrer, les habitations des quartiers populaires pauvres et noirs de facto. Mais on imagine bien que l'économie sera faite par les pouvoirs publics sur les normes coûteuses que l'économie sera faite par les pouvoirs publics sur les normes coûteuses destinées à protéger les habitations les plus défavorisées en cas de passage d'un nouvel ouragan de type Irma. Entre ingérence, non-assistance à personne en danger et criminalisation de la survie, l'apartheid et la discrimination sur le critère pigmentaire continuent à sévir dans l'économie française et seul un mouvement social d'ampleur sera en mesure de poser sur la table les conditions de l'émancipation des peuples concernés.
Et ouragan toujours au sujet des réactions qui ont pu avoir lieu donc, de la part de l'opposition parlementaire sur l'ouragan Irma et donc sur le fameux désengagement de l'État. Puisque la polémique gronde depuis quelques jours au sujet de la manière dont l'État a géré l'arrivée de l'ouragan Irma, donc comme tu le disais, sur les territoires de l'outre-mer colonisés, en l'occurrence donc les îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Les critiques relayées par l'opposition officielle portent côté Front National et Républicain sur le manque de gendarmes face au pillage, côté Mélenchon sur un manque de coopération internationale, le chef de la France Insoumise en profitant pour se présenter comme le chantre d'une solidarité internationale qui ne va tout de même pas jusqu'à une analyse internationaliste et anti-impérialiste de la situation des Dom et des Tom. À quoi bon en effet l'anticolonialisme quand on peut bondir entre les murs du Palais Bourbon en réclamant des commissions parlementaires à qui mieux mieux ? Pourtant, et par-delà la question de l'engagement de l'État, j'y reviendrai, ce ne serait pas un mauvais moment pour dénoncer un système raciste dans lequel une bourgeoisie essentiellement blanche côtoie un prolétariat, un lumpen prolétariat majoritairement noir ou métisse. Et destruction naturelle qui s'ajoute à un système destructeur frappe avant tout ce prolétariat. La bourgeoisie, elle, se relèvera ou elle rentrera en France. Petite anecdote rapportée par Outre-mer Première et le Dauphiné Libéré. Les premiers bateaux qui sont arrivés à Saint-Martin pour les évacuations ont en priorité recueilli des touristes américains. Le capitaine du navire assure avoir été missionné par le préfet pour procéder de la sorte. La préfecture conteste, mais reste pour les habitants le sentiment d'une injustice qui se poursuit et se déchaîne d'autant plus que l'île se transforme en un piège dont ne semble autorisé à sortir que ceux qui disposent des ressources pour payer au prix fort un avion ou ceux qui sont de la bonne couleur. Lorsque la polémique s'apaisera, il y a fort à parier que la reconstruction sera celle d'un système colonial qui expose certains et certaines au pire et permet à d'autres de se sauver. Il est tout aussi probable que les politiciens de l'opposition bourgeoise se désintéresseront des habitants de Saint-Martin quand ce ne seront plus seulement quelques pilleurs, opportunistes ou affamés, qu'il s'agira de vouer aux prisons ou aux gendarmes, mais tout un pillage organisé qui restera à détruire. Voilà qu'on s'inquiète chez les parlementaires des infrastructures publiques, du prix et de l'approvisionnement en denrées, en essence, en électricité. Mais ces inquiétudes, les a-t-on entendues quand récemment en Guadeloupe, certains syndicats montraient que la situation est mauvaise, même quand le ciel est calme, les préfectures ouvertes et les gendarmes nombreux ? Elle est, pourrait-on dire, mauvaise parce que les préfectures sont ouvertes et les gendarmes nombreux, parce que par-delà l'impréparation, le manque d'organisation, l'État français maintient un ordre colonial dans ses territoires. Les catastrophes naturelles sont souvent un bon révélateur de la brutalité dont fait preuve la bourgeoisie dans la guerre de classe. Elles montrent combien la sécurité est en fait maintien de l'ordre capitaliste. Lorsqu'en 2004, la population de la Nouvelle-Orléans aux États-Unis crevait dans la ville inondée et que des propriétaires de supermarchés flinguaient des gens qui cherchaient à se nourrir, à Washington, au premier soir de l'ouragan, Bush allait se coucher, reportant au lendemain la signature d'un plan d'urgence parce qu'il était fatigué. L'anecdote est un peu outrancière, mais elle dit combien la bourgeoisie se moque de la sûreté véritable de notre classe. Elle n'a, au fond, que faire de ce qu'elle précarise, racise ou colonise, jusqu'à ce que ces derniers deviennent, à leur tour, une catastrophe qui les balayera.
Et petite correction, nous ne disons plus dom-tom, nous disons drum-com. Voilà, merci. Hein. Et les Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont des coms. Voilà, petit cours d'histoire géographie en direct.
Merci, professeur.
Merci, professeur.
On va passer au national.
Tout à fait, au national où Macron, à Athènes, ce vendredi 8 septembre, prononce un discours sur la refondation de l'Europe, refondation qui passe par des réformes, réformes qu'il a déjà commencé à engager, notamment concernant le code du travail via ordonnance. Affichant sa détermination absolue quant à ces réformes, comme le rapporte le Figaro, Emmanuel Macron a tenu à mettre en garde quiconque s'y opposerait. Alors que deux manifestations sont déjà prévues à l'agenda, le 12 et le 23, donc...
Et le 21.
Oui, le 12... les 12, le 21 et 23. Bref, CGT et France Insoumise. Et si Emmanuel Macron veut réformer sans brutalité, avec calme, avec application et sens, il adresse tout de même ce message à ses opposants. Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. C'est sûr de se lever à 5 heures le matin, cumuler plusieurs travails pour essayer de boucler la fin du mois, les millions de chômeurs, de licenciés, de personnes détruites par le travail, car elles y croyaient. Oui, ces personnes-là sont des fainéantes, effectivement, car elles veulent se protéger et améliorer leurs conditions de travail. Alors, gros big up aux fainéants, aux cyniques et aux extrémistes. Sachez qu'Emmanuel Macron a par la suite ajouté deux catégories à la liste des adversaires de la start-up nation, l'égoïsme et les pessimistes. Mais en fait, il se prend pour qui, ce petit merdeux qui, devant une machine ou un balai, ne sait quoi faire? Ce mépris est d'époque, ne vous détrompez pas. C'est celui des patrons qui pensent que tout leur est dû car ils ont des billets entre les mains. Par contre, dans le bleu de nos mains sales se cachent des diamants, bien sûr, mais aussi notre émancipation de cette classe méprisante. Oui, nous savons quoi faire. Il est au creux de nos mains, mais aussi dans nos pieds, qui fouleront la rue demain. Alors que les réactions se multiplient face aux propos d'Emmanuel Macron, l'Élysée tente de désamorcer la situation en faisant savoir qu'avec le terme fainéant, le président visait ceux qui étaient au pouvoir ces 15 dernières années et qui n'ont rien fait, rapporte le toutou BFM. Pas le nouveau chien fraîchement adopté de Macron, hein, mais la chaîne de TV. De télévision, précisons bien. On pourra remercier Macron d'appeler les gens à manifester contre lui, donc dès demain. Mais n'oublions surtout pas que les fainéants produisent la richesse des classes supérieures. Les sans-culottes, les va-nu-pieds, les vauriens, oui, tout cela ont fait les révoltes et les révolutions qui renversent les puissants et imposent leur volonté. Encore une fois, nous avons cette possibilité de le faire, mais il reste deux questions inconnues. Êtes-vous prêts et seriez-vous au rendez-vous demain pour défendre vos droits qui, rappelons-le, ne sont jamais acquis?
Et on enchaîne avec deuxième volet de Maïs traître, on pourrait dire même Maïs gros traître, parce que là quand même il va loin. Alors bon, il s'est foutu de la gueule des syndiqués Force Ouvrière, il appelle pas à la mobilisation demain ni le 21 septembre, alors que la loi travail il y appelait, mais là a priori ce serait beaucoup mieux visiblement. Et surtout pire encore, donc ça c'est une révélation canard enchaîné. Lui et un certain Berger, donc de la CFDT, ont été reçus à l'Élysée par Emmanuel Macron le lundi 28 août, hein, au petit matin d'abord, donc pour le patron de la CFDT, puis ensuite donc Jean-Claude Mailly, le patron de Force Ouvrière, et il s'est ensuite rendu avec Laurent Berger chez sa copine, puisque en fait ils ont lié une relation d'amitié, Muriel Pénicaud, donc la ministre du Travail. Motus absolu, les syndicalistes ne devaient pas en souffler un mot à leurs états-majors. Donc c'est Macron qui a demandé à ce que cette réunion secrète ait lieu, hein, sachant que Édouard Philippe se gargarisait quelques semaines auparavant en disant que tout avait changé, qu'il n'y aurait plus de conciliabule top secret, etc. Bon, c'est évidemment faux, hein, et l'objectif là, c'était d'être sûr que Mailly et Berger tenaient bien leur base, hein, et surtout que Force Ouvrière ne modifie pas sa ligne et n'appelle pas à la mobilisation du 12 septembre. Pourquoi ? Puisque Macron comme Édouard Philippe, eh bien, ils ont peur de la mobilisation et de l'ampleur que peut prendre cette mobilisation. Et donc jouer sur la division entre Force Ouvrière et la CGT, c'est évidemment jouer donc sur une certaine désunion et donc sur en tout cas favoriser moins de mobilisation que si la CGT et Force Ouvrière étaient donc sur la même ligne. Or, c'est plutôt un échec, puisque chez Force Ouvrière, eh bien, déjà le comité confédéral s'est positionné contre les ordonnances, et que c'est très compliqué au sein de Force Ouvrière. Et 52 unions départementales, donc plus de la moitié des unions départementales, appellent à la grève du 12 septembre. Énormément de services entiers, de secteurs, de fédérations entières comme l'Éducnat, transport, chimie, énergie, action sociale, fonctionnaires, santé, bâtiments, et j'en passe, appellent à la mobilisation et au 12 septembre. Donc il y a des cadres des confédérations, même très importantes, de forces ouvrières qui y appellent. Pour la petite blague, FO Défense et Armement, FO Finance, FO Pharmacie, FO Pénitentiaire n'appellent pas à la mobilisation, mais ça on s'en serait douté.
Et pas l'UD du Rhône, a priori, sauf erreur, l'UD Force Ouvrière du Rhône n'appelle pas à se mobiliser pour le moment.
Donc. Pourtant, ils ont été invités par différentes organisations, et notamment par l'Assemblée de par le Front Social de Lyon.
Le Front Social a invité cordialement, effectivement, Force Ouvrière à se joindre à la mobilisation demain.
Si le secrétaire général du Rhône de FO nous écoute, on réitère cette invitation. Hein.
Peut-être que le mail n'est pas suffisamment bien tourné, ni suffisamment poli.
Il était très poli.
Ou alors le secrétaire de l'UD du Rhône est dans la ligne. Du coup, la mauvaise ligne. Apparemment.
Mais bon, en tout cas, ce qu'on espère, c'est que Maï va se faire virer le plus rapidement possible, et que c'est l'aile la plus à gauche de Force Ouvrière qui va prendre le dessus, et que on va les voir dans les manifestations et dans les grèves. Voilà.
On vous attend, les mecs.
Et les meufs. Ah ouais, quand même.
C'est un syndicat très masculin.
C'est vrai.
Et si vous avez cru entendre une canette en train d'être décapsulée pendant la chronique de l'ami S.
C'est un leurre.
C'est un leurre.
Voilà, après les révoltes sociales, la révolte environnementale qui s'est passée à Bure le 15 août. Donc je vais vous livrer un témoignage de la victime qui s'est fait exploser le pied. Mes chers collègues, un peu sérieux s'il vous plaît. Merci. Donc ça s'est passé le 15 août, les manifestants opposés à la poubelle nucléaire que l'État construit à Bure ont été la cible de violences policières. Robin a eu le pied fracturé par une grenade offensive, il témoigne et appelle à se rassembler contre les grenades assourdissantes et toute autre arme létale des policiers et les violences policières le dimanche 10 septembre à 14h devant la préfecture de Bar-le-Duc à Meuse, dans la Meuse. Donc voilà.
Et c'est passé du coup.
Oui, effectivement. Alors, je commence. Je suis Robin, la personne qui a été gravement blessée au pied par une des nombreuses grenades que la gendarmerie ont tirées à la manifestation contre la poubelle nucléaire Cigéo à Bure, mardi 15 août 2017. Mon pied a été creusé de 2 cm à 3 cm de profondeur sur une surface de 10 à 13 cm de longueur. Les os fracturés et pulvérisés ont été réparés avec des prothèses, des broches et du ciment. La douleur est constante, les nuits difficiles et le risque d'infection grand, et donc d'amputation des orteils reste possible selon la chirurgienne. J'aurai des séquelles à vie. La manifestation a été bloquée et gazée dès le départ de Bure par les gendarmes mobiles. Après avoir fait demi-tour, nous sommes repartis à travers champs vers le site de Landra et nous avons de nouveau été bloqués à la sortie du village de Saudron. Un arsenal militaire avec canons à eau s'est déployé rapidement et les GM nous ont repoussés et suivis à travers les champs avant de nous disperser avec des lacrymogènes et des tirs de flashball. Et surtout à la fin, une grosse salve de grenades dites à effet assourdissant GLIF4, donc une sous-catégorie des grenades létales offensives qu'on utilise pendant les guerres. Parmi la quinzaine de grenades que les GM ont envoyées dans un espace d'une minute, j'ai vu la deuxième exploser à ma hauteur. Si quelqu'un avait eu à cet endroit précis sa tête, il aurait été mort à l'heure qu'il est. Pour ma part, comprenant le danger de la situation, je me mets à courir dans la direction opposée des GM. Et là, j'entends crier « Attention, grenade !» Je lève la tête pour chercher dans le ciel. Je ne vois rien. C'est à ce moment-là que la grenade explose à côté de mon pied. Choqué par les bruits et les nerfs ayant été coupés sur le cou, je ne comprends pas ce qui m'arrive et je le regarde sans y croire. Mon pied, que la chaussure explosée et fondue laisse apparaître, est ouvert sur la grande partie supérieure, os et tendons à l'air. Cette vision d'horreur associée à la douleur brutale qui commence à monter me font crier. Je m'écroule, mais rapidement l'équipe médique arrive et me met sur le brancard pour me faire sortir du champ. Toujours, les grenades continuent à exploser et l'une d'elles tombe très proche, alors qu'on n'est pas très loin de la sortie. À ce moment, l'intention des GM est très claire, lancer des grenades pour nous blesser, ceci dans le but d'évident de terroriser l'ensemble de la population, que ceux qui se battent déjà arrêtent et ceux qui ne se battent pas encore se disent « je ne vais pas risquer ma vie malgré tout ». Les raisons qui poussent à se battre aujourd'hui, il ne tient qu'à vous d'inverser cet effet. La surveillance policière, les procès, les gardes à vue et la prison ne suffisent plus à empêcher quelque chose d'évidemment nécessaire à démerger. Alors, pour continuer à construire leur monde de béton, ils frappent, tirent au flashball et envoient leurs grenades meurtrières. Alors, il faut savoir qu'en juillet 77, excusez-moi, Vital Michalon est tué et Rémi Fraisse tué en octobre 2014 à la ZAD de Sivens. Mon cas est bien loin d'être isolé. De trop nombreuses personnes ont été blessées par la police et je partage maintenant leur histoire et leur souffrance. Je pense aux très nombreuses victimes de crimes policiers, Adama Traoré, Wissam El-Yamni, Larami et Mussim Alizeri et toutes les autres personnes passées à tabac, asphyxiées ou battues, menottées, violées, dont la police a pris la vie ou dans la plus totale impunité. Voilà le calvaire que vit maintenant Robin. Et n'oublions pas les violences policières, la police viole, mutile, assassine. Donc c'est à vous, c'est à la population de se mobiliser pour dire stop.
Et venez protéger en manif, mais venez quand même.
Tout à fait.
Et oui, et venez bien en manif parce qu'il se prépare des choses pour la suite. Puisque alors que tous les regards sont tournés, et c'est bien normal, vers la réforme du Code du Travail et les fameuses ordonnances, le gouvernement s'attaque également à l'existence même du SMIC tel que nous le connaissons aujourd'hui. Dans la plus grande opacité, le Premier ministre Édouard Philippe vient de nommer un groupe d'experts pour travailler sur le SMIC. Rien de très nouveau puisque ce groupe avait été créé sous le quinquennat Sarkozy et maintenu sous Hollande. Si le Premier ministre est si discret, c'est surtout quant à la composition de ce groupe. Depuis 2008, ce groupe qui abordait les questions du coût du SMIC, du nombre de personnes en bénéficiant, des modalités de revalorisation, comportait toujours un sociologue. Sous Macron, excite le sociologue, ce collectif de travail est désormais uniquement composé d'économistes ultra-libéraux. Et notamment, un certain Gilbert Sète, C-E-2-T-E. Retenez bien quand même. Dès 2003, dans les colonnes du Figaro, cet expert en SMIC, placé par le gouvernement, proposait qu'au lieu d'augmenter le SMIC, le baisser progressivement serait plus judicieux en cette période où le chômage va de record en record. Celui-ci expliquait même que le SMIC ne protège pas contre la pauvreté. Là, pour le coup, il avait raison, même s'il n'essayait pas de dire qu'un SMIC était encore un salaire bas, totalement compatible avec une situation de pauvreté pour le salarié. Dans le journal Libération du 3 septembre 2015, il proclamait, je cite, que le SMIC ne doit s'appliquer que par défaut en l'absence d'accord de branche. Palaboum ! Avec 2 ans d'avance sur Hollande et Macron, il théorisait déjà l'inversion de la hiérarchie des normes en prenant l'idée que les branches puissent convenir d'un salaire minimum inférieur au SMIC. Mais sa meilleure trouvaille, c'est certainement sa proposition de SMIC par région et par âge. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien ce que propose tout simplement Gilbert Sète, un dumping social interrégional et intergénérationnel. Donc demain, Thierry, 38 ans, salarié d'automobile dans le Rhône, pourra avoir un SMIC différent de celui de Julien, 23 ans, salarié d'automobile dans le Gers. Fûtait ça de supprimer le salaire minimum tout en créant la possibilité pour les patrons de fixer un salaire minimum par salarié. On est bien dans le vif du sujet de la logique des ordonnances Macron et de la prévisible réforme du SMIC à venir. Une bonne raison d'être des millions dans la rue ce mardi et après.
Et oui, d'ailleurs, à propos de ce mardi, on voulait revenir un petit peu sur comment la nouvelle loi travail va plus particulièrement toucher les femmes et aggraver leur précarité, notre précarité. Du coup, voilà, comme la loi travail saison 1, la logique générale de cette loi, c'est de tirer vers le bas les conditions matérielles d'existence de toutes et tous, mais aussi d'accroître les inégalités entre les salariés. Et étant donné la place particulièrement précaire qu'occupent les femmes sur le marché du travail, la loi travail XXL aura un impact bien plus grave sur leurs conditions de travail. Je rappelle que les femmes représentent la majorité des travailleurs pauvres. Du coup, je vais donner quelques éléments sur ces inégalités structurelles entre hommes et femmes. Alors, je dis structurelles parce que c'est des inégalités qui structurent vraiment le marché du travail. Elles sont nécessaires pour l'augmentation du taux de profit des capitalistes et ils s'en servent pour gérer l'ensemble du marché du travail. Donc, c'est pas un hasard, hein, c'est nécessaire à l'augmentation du taux de profit des capitalistes. Donc, je rappelle que les femmes continuent de gagner en moyenne un quart de moins que les hommes, que 80% des temps partiels sont occupés par des femmes, qu'une femme sur trois travaille à temps partiel, que les contrats courts et les CDD touchent plus fortement les femmes, donc 3 CDD sur 5 sont occupés par des femmes, et d'autre part, qu'elles sont plus nombreuses dans les PME-TPE, des entreprises où il est toujours plus facile de faire grève et de s'organiser collectivement. En général,
c'est bien connu.
Il y a assez peu de syndicats. Mais
d'ailleurs, Macron, il n'a pas dit feignante, il a dit feignant.
du coup, voilà, ça, c'est les gros éléments qui font que les femmes sont plus précaires que les hommes. Il y a aussi, bien entendu, tout le harcèlement dont elles sont victimes au sein des boîtes et le sexisme général. Donc pour des millions de femmes prolétaires, la réalité du travail, c'est d'être assignée en plus aux tâches les plus dévalorisées, donc ménage, aide à la personne, des secteurs qui embauchent particulièrement les femmes, et dans des conditions de précarité extrêmes, elles sont davantage touchées par le chômage, les temps partiels et la flexibilité imposée. Donc, notamment, par exemple, pour ce qui est du ménage, les femmes ont souvent deux ou trois employeurs, elles travaillent en coupure, avec des horaires de merde. Et voilà, ça rend leurs conditions de taf vraiment difficiles. Là, cette loi travail, il y a un certain nombre d'éléments qui vont d'autant plus les toucher. Donc, par exemple, la facilitation des licenciements, pardon. On en a parlé un peu plus longuement la semaine dernière. Donc, notamment, les patrons seront plus obligés de motiver le licenciement. Donc, il fera pas bon demander des jours de congé pour enfants malades ou le mercredi après-midi pour emmener les gamins aux loisirs ou simplement de finir plus tôt pour pouvoir aller chercher les à l'école. Ça sera beaucoup plus difficile de demander ce genre d'aménagement de l'emploi du temps parce que en fait il y aura au bout la possibilité de se faire licencier
ou de faire une fausse couche tranquillement chez soi.
Oui, voilà, ou par exemple. Non, il fait référence à une caissière qui s'est fait licencier après avoir fait une fausse couche il y a quelques mois.
Oui, je pense la précision.
Ouais, mais voilà, la précision, c'est cool. Ouais.
Voilà, c'est une caissière de Auchan qui s'est fait licencier parce qu'elle a fait une fausse couche au travail.
Dans la déclaration de Macron, j'aurais été cynique. Désolé.
Donc, je suis ravie que ça vous fasse autant rire. Donc, il faudra être entièrement disponible sous peine de se faire licencier. Alors, en fait, c'est discriminant, mais en réalité, pour prouver que c'est une mesure discriminante, ça va être très difficile. En plus, en France, c'est une particularité un peu française, mais la norme de présentéisme est extrêmement valorisée. Donc, pour les meufs, je rappelle qu'on effectue toujours 80% des tâches domestiques. Oui, oui, oui. Donc rester tard au taf, souvent c'est pas possible parce qu'on a ce qu'on appelle une double journée de travail. C'est-à-dire qu'on rentre à la maison, il faut s'occuper des enfants, faire à manger, faire le ménage, la lessive. Du coup, voilà, ça va mettre la pression sur les travailleuses qui, par définition, sont un peu moins flexibles. D'autre part, une des autres grandes caractéristiques de la loi, c'est l'inversion de la hiérarchie des normes. Donc, l'affaiblissement du code du travail et des accords de branche, ça veut aussi dire que tous les acquis qui permettent aux meufs d'améliorer un peu leurs conditions de taf risquent de passer à la trappe. Donc, je pense par exemple à des avantages qui ont été négociés dans des conventions collectives de branche, notamment au congé enfant malade ou à l'allongement du congé maternité avec maintien de la rémunération, l'allègement du temps de travail des femmes enceintes. Tous ces droits risquent d'être mis en cause par des accords d'entreprise. Donc ça, c'est les principaux éléments, mais également l'affaiblissement de l'ensemble des négociations, des accords dans l'entreprise, le fait de réduire la défense, les syndicats et dans les boîtes, ça va conduire de fait à ce que les femmes se retrouvent tout au bout de la chaîne bien plus désavantagées. Donc, par exemple, 20% des femmes déclarent avoir subi du harcèlement sexuel au travail. Une des missions du CHSCT qui va être supprimée avec ces ordonnances, c'est de défendre les salariés victimes de harcèlement sexuel. Donc c'est pareil, ça va une fois de plus être les femmes qui vont manger tout au bout de la chaîne le plus cette nouvelle réforme. Donc voilà, plus que jamais, il faut s'organiser face aux capitalistes aujourd'hui incarnés par Macron et sortir dans la rue et démontrer aussi qu'on a notre place, nous les meufs, dans cette lutte-là, et parce qu'on est probablement celles qui vont le plus la subir.
Voilà.
Et d'ailleurs, il y a un pink bloc qui est organisé pour la manif de demain. Je sais pas où est l'encart, par contre.
Juste aussi pour dire, à l'autre bout de la chaîne, il y a qui se font particulièrement discriminer, c'est les personnes d'origine étrangère ou considérées comme telles, hein, qui vont elles aussi subir encore plus que les autres, notamment au moins les hommes blancs, la discrimination et les conséquences de cette loi travail qui excelle.
En attendant qu'un problème soit résolu avec notre dossier, là, parce qu'on a un problème de technique, on va peut-être vous redonner un peu les infos pratiques pour la manif de demain. Une bière a failli tomber, donc...
Mais c'est bon, rassurez-vous, elle n'est pas tombée, on va la boire.
Je vais la boire.
Ouais, donc, ouais, petit moment de stupéfaction auquel nous faisons face en vous annonçant que demain,
nous, on est fatigués.
Le rendez-vous c'est 11h30, Manufacture des Tabacs, Métro Sans Souci, le plus nombreux et nombreuses possible.
Il y aura un cortège du Front Social, Assemblée de Lutte et des étudiants de la Jeunesse En Marche. En Marge.
Étudiants, lycéens.
En Marge, ouais. En Marge, pardon. Oui. Voilà.
Avec une énorme banderole que vous devrez normalement reconnaître, puisque ce sera marqué retrait des ordonnances et convergence des luttes, avec un petit logo Front Social dessus. Très belle banderole.
Voilà, rendez-vous demain. Ensuite, il y a quand même une petite AG étudiante sur le campus de Lyon 2, sur les quais. Donc ça sera à 15h.
Oui, ou peut-être un peu avant, parce qu'en fait l'idée c'est qu'il y aura un pique-nique à la fac, enfin une
après
bouffe.
Après la manif, ouais.
Pas un pique-nique du tout d'ailleurs, une bouffe.
Ouais, ce sera une sorte de pique-nique bouffe.
Après la manif, et du coup les étudiants ils veulent enchaîner sur une AG okay. À la fac.
Et manger un ou deux universitaires au passage.
Et une fois que la jeunesse sera rassasiée et que l'assemblée sera consommée, il y aura cette fameuse AG de lutte Front Social qui aura lieu à 16h30 à la Bourse du Travail. Donc, salle Moissonnier, 3e étage, gauche-gauche, extrême gauche-gauche.
Et, avec pour objectif de s'organiser, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire. Mais...
Avec pour objectif de s'organiser pour la suite, parce que ça va pas suffire une journée de mobilisation. Il y en a une seconde qui a été déposée par la Confédération CGT en collaboration, je pense, avec Solidaire, comme pour la première, puis certaines UD et faux comme on disait tout à l'heure. Ça sera pour le 21, donc jeudi prochain. Il y a la manif à Paris de Mélenchon le 23, mais c'est parisien. Et
c'est Mélenchon.
Ouais, c'est pas obligé.
Ça fait quand
dire,
même
hein.
deux tard.
On verra ce qu'on fera localement.
Localement, on va faire le 21.
Oui, bah oui.
Ouais.
Puis surtout, on va faire grève.
Si je peux ajouter un élément qui va mettre du baume au cœur à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a une convergence des luttes qui semble se préparer. Alors, on attend un peu de voir ce qu'il en est, mais à la SNCF, dans la fonction publique, il y a un certain nombre de choses qui commencent à faire que les gens en ont gros. Et on peut espérer, voilà.
On en a gros. Non, sur la fonction publique, d'ailleurs, on n'en parle pas assez, mais faut quand même rappeler et dire aux gens que les attaques risquent d'être terribles.
120 000 postes de fonctionnaires de supprimer, 20 milliards d'euros en moins pour le budget 2018. Donc c'est voilà, moins de personnel, plus de travail précaire et moins d'accès aux services fondamentaux que sont les services publics. Donc,
entre 30 et 100 balles de moins par mois sur les salaires.
Et surtout les contrats.
C'est bien une revendication de prof, ça.
Qui ont été supprimés et qui aident beaucoup d'associations et qui
qui accueille des enfants handicapés dans les écoles et autres pour les cantines, etc., etc. Donc c'est aussi ces fameux 150 000 emplois aidés qu'il faut redemander.
Faut demander la titularisation des contrats aidés.
Ouais. Les copains, si vous pouvez continuer à meubler, parce
ouais, carrément. Là, du coup, on peut parler des contrats aidés.
Il y a aussi la normalisation de l'état d'urgence dans les revendications qu'on peut mettre en avant. Il y a eu une manifestation à Paris le week-end dernier. Là-dessus, justement, et c'est quoi la normalisation de l'état d'urgence? C'est donc mettre fin à l'état d'urgence en novembre, super, mais sauf que.
Enfin, une de nos revendications. Voilà. On a enfin obtenu ce qu'on demandait.
Une de nos revendications validées par le gouvernement, sauf que derrière, c'est faire passer dans la norme énormément de pouvoirs qui étaient auparavant qui dépendaient du ministère de la Justice et des juges vers les préfectures et le ministère de l'Intérieur. Et donc tout ce qui est perquisition administrative à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, confiscation des téléphones et des ordinateurs portables et des données et des métadonnées dans ce cadre-là des perquisitions administratives, ça pourra se faire sur simple demande des flics, des keufs en fait, d'un commissaire par exemple, divisionnaire ou non.
Ça c'est tout ce qui est déjà prévu par l'état d'urgence en ce moment. Simplement ce qui se passe c'est que ça va devenir non plus l'exception mais la norme. Ça veut dire qu'il y aura un nouveau texte qui va définir un nouvel état d'urgence qui risque d'être d'autant plus violent. Et ça, pour le moment, il n'y a pas eu de fuite sur quel va être le nouvel état d'urgence. Mais c'est sûr qu'après, la prochaine fois qu'ils vont mettre un état d'urgence, ça veut dire qu'ils vont aller un seuil au-dessus, quoi.
Et pour continuer sur cette normalisation, il y a également l'assignation à résidence de personnes suspectes. Il y a la possibilité de placer des gens sous bracelet électronique simplement parce qu'ils sont suspects et donc toujours pas condamnés. Et l'interdiction des manifestations et des cortèges. Hein. C'est les cinq gros points de cette normalisation de l'état d'urgence.
On parle aussi de Maduro à l'intérieur, quoi.
C'est une société, une blague, visiblement, mais pas obligé de la relever.
Non, après, sur les contrats aidés, faut quand même rappeler que c'est une mesure de Hollande qui visait à faire baisser les chiffres du chômage de manière complètement artificielle et qu'on se retrouve dans une situation quand même assez hallucinante de défendre, c'est le cas, c'est ce qu'on fait, mais de défendre un contrat qui par nature est extrêmement précaire et qui fournit qui plus est de la main d'œuvre gratuite, quasiment gratuite pour les patrons. Du coup, voilà, je pense qu'il faut quand même le rappeler quand on parle des contrats aidés, c'est que c'est quand même aussi une invention de l'État qui est particulièrement hardcore.
Et c'est pour ça que le mot d'ordre de titularisation, il est nécessaire et qui vient en complément aussi de ce que tu disais tout à l'heure, à savoir qu'il y a quand même des services publics qui tournent, il faut le savoir, avec des contrats aidés qui servent de pansement face au manque de postes titulaires, de vrais postes dans la fonction publique, et que là, la suppression de ces contrats aidés, notamment dans les écoles, j'imagine dans certains hôpitaux, mais j'en suis pas certain, je sais pas si la fonction publique hospitalière y a recours, notamment dans les écoles, a des effets complètement désastreux, et surtout pour les familles qui sont déjà des familles prolétaires, quoi.
Tout à fait, et surtout dans les associations culturelles où il y a beaucoup de contrats aidés qui permettent aussi l'accès à la culture d'une certaine tranche de population qui n'a pas accès facilement. Donc, comme on dit, c'est plutôt la titularisation de ces contrats qu'on demande, parce que et puis surtout le rétablissement et la titularisation de ces contrats qu'on a besoin, que la société a besoin, que le peuple a besoin.
Est-ce qu'on doit continuer à meubler? Parce que là, je suis à deux doigts de parler de mon chat.
Alors, écoute...
Il n'y a pas de chat.
Fais-toi plaisir.
Il n'y a pas de chat.
En fait, on a un problème, c'est que le documentaire qui était prévu, qui dure 23 minutes, donc de toute façon, on n'a pas le temps.
Ah oui.
Il marque erreur sur la clé USB et du coup, on ne peut pas le diffuser. Donc, ce sera pour la semaine prochaine, certainement. En attendant...
On a un camarade qui va nous lire le journal, du coup.
Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que vous saviez que Philippe Petit, Gensler, Guénaud et Raffarin étaient devenus journalistes? Eh ouais. Et voilà, ils interviennent donc.
Et oui, mais c'est vrai.
Il y a de plus en plus de donc entre les différentes formes de pouvoir, en fait, il y a
sur plein de n'importe quoi. Moi, j'ai un avis sur tout, de toute façon.
Entre les différentes formes de pouvoir, on peut passer de chef d'entreprise, banque, à politique, en passant par les médias ensuite et vice versa. Exactement comme ça se passe aux États-Unis, c'est de plus en plus le cas en France. Hein, la preuve, des anciennes grosses personnalités politiques de premier rang.
La conclusion de cette anecdote, c'est venez manifester demain pour que Raffarin ne soit pas journaliste.
C'est, et c'est quand même Roselyne Bachelot qui a montré le chemin à tous ses camarades. Henri Guénaud, on peut saluer Roselyne Bachelot.
Henri Guénaud, quand même journaliste, ça fait mal. Parce que...
Ouais, parce que Roselyne Bachelot, par contre...
Moi, je trouvais qu'elle était bien. Ouais.
Et puis en plus, c'est...
Les journalistes,
et drôle.
Ça fait mal déjà. Donc, ouais.
C'est pas faux, ouais.
Et puis en plus, c'est pas seulement, on va dire, la droite habituelle, hein, parce qu'il y a aussi, je sais plus comment elle s'appelle, mais une meuf de la France Insoumise qui est journaliste chez Ardisson aussi.
Raphaël Garrido.
Ouais, c'est ça.
Oui.
Ouais. Donc en fait, voilà, la France Insoumise, vachement alternatif, mais ils font pareil, quoi.
D'ailleurs, Mélenchon est très en colère contre le canard à cause de ça, puisque c'est le canard qui a révélé. C'est...
Enfin, on l'aurait peut-être vu, hein.
Les feuilles du canard.
Donc c'est la télé.
Les canettes de bière.
Ouais. Non, mais on cherche des infos. On cherche des infos. Non, bah on peut parler de l'Allemagne.
On peut parler des réformes arts en Allemagne.
Ouais. On n'est pas censé faire de la pub pour le canard enchaîné non plus. Hein.
Non, mais par contre, on peut faire. On peut parler des lois Arts 4 en Allemagne.
Qui ont été mises en place par Gerhard Schröder, donc qui était un gouvernement de coalition et social-démocrate et les Verts, donc nos camarades des Verts, qui ont mis en place ce que Macron veut mettre en place aujourd'hui, c'est-à-dire une réforme qui a permis de fusionner les services de l'indemnisation chômage et des prestations sociales. Ce qui fait que maintenant...
En quelque sorte, c'est... On en parlait la semaine dernière, mais le fait de changer le mode de financement du chômage en passant par la CSG, ça revient à faire du chômage, à considérer que le chômage c'est la même chose que le RSA, donc à progressivement faire entrer dans l'idée qu'il y aurait une seule et couverture sociale. Donc ça, c'est ce qui a été fait déjà en Allemagne.
Et en gros, ce que ça a provoqué, hein, ces réformes Hartz 4, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'Allemagne est considérée comme compétitive et qu'il y a un taux de chômage bien inférieur à celui de la France. Mais entre 22 et 23% des travailleurs allemands et des travailleuses allemandes sont des travailleurs pauvres.
C'est-à-dire aussi, il y a énormément de temps partiel, enfin...
Et des travails, il y a des travails qui sont à temps plein ou presque et qui sont payés à 400 ou 450 euros par mois. Et ces job centers, en fait, gèrent à l'intégralité.
Alors, les job centers, c'est l'organisme en gros qui règle l'ensemble de ces prestations sociales là.
Pour les chômeurs dits de longue durée, c'est-à-dire plus d'un an. Or, il y en a énormément.
En fait, les chômeurs Hartz 4, ils les appellent comme ça.
Les chômeurs Hartz 4 pour qu'ils bénéficient. Hartz 4.
Quel allemand.
Ouais. Pour qu'ils bénéficient encore de leurs prestations sociales. Et ces job centers poussent évidemment à prendre des tafs absolument sous-payés pour que telle ou telle personne puisse continuer à bénéficier de certaines prestations sociales, même relativement faibles. Et ils vont très loin parce qu'ils ont un rôle encore plus de flic que Pôle emploi aujourd'hui.
Oui, voilà, ils se permettent d'aller très loin dans les questions qu'ils posent à leur comment dire,
esclaves.
Alors esclaves, ouais. Notamment des questions personnelles et les chômeurs ont une obligation d'y répondre. Donc il y a le témoignage d'une nana enceinte célibataire dont le conseiller a demandé la date de naissance et le nom et l'identité des partenaires sexuels.
Partenaire sexuel, tout à fait.
Voilà, alors, l'idée, c'est de contrôler les chômeurs dans leur intimité pour les rendre, pour leur donner envie d'accepter n'importe quoi pour sortir de ce système insupportable.
Autre exemple, hein, quand certains couples allemands ou femmes seules célibataires ont des enfants, eh bien il y a job centers qui donnent en fonction de l'âge entre 280 et 360 euros par mois à peu près par enfant. Et certains enfants sont convoqués par le job centers en fonction de leurs résultats scolaires et en fonction de leurs envies futures de parcours. Hein, et
ils sont orientés par le job center
et ils sont obligés de venir au rendez-vous. Sous peine d'abaissement
de suppression de leur partie.
D'abaissement ou de suppression de leur partie dont bénéficient les parents pour pouvoir les faire bouffer.
Donc voilà, c'est un espèce de Big Brother, de Pôle emploi, Big Brother extrêmement intrusif et qui par ailleurs peut contraindre à accepter des tafs vraiment merdiques à tous les chômeurs.
Et qui n'ont aucun rapport avec les qualifications. C'est exactement ce que disent les personnes qui font la file tous les matins parfois, parce qu'ils ont obligation parfois d'y aller tous les matins, ne serait-ce que pour pointer, pour montrer leur motivation sous peine de voir baisser leurs allocations ou leurs prestations sociales. Et ils se retrouvent à être obligés de faire des tafs, mais qui n'ont absolument rien à voir, et parfois qui sont très physiques pour des personnes qui se retrouvent à 55, 60 ans, 63 ans, 64 ans, hein, puisque la retraite en Allemagne, elle est plus loin, elle est plus tard plutôt qu'en France, merci.
Mais justement, du coup, il y a un vrai enjeu aujourd'hui à se mobiliser contre la loi travail XXL qu'on va se manger dans la gueule, parce que avec le fait de rompre avec la logique assurantielle du chômage, on se dirige vraiment très exactement vers le modèle allemand. Macron l'assume complètement, mais aussi sur la question des négociations d'entreprise, du rôle des syndicats, il cherche vraiment à coller au modèle allemand. Mais il faut rappeler que le modèle allemand, il a un prix. Ce prix, c'est que, bah, par exemple, la population, les chômeurs hard cat, ils sont fliqués en permanence et ils ont une vie horrible. Le prix, c'est qu'en fait, il y a 20% de travailleurs pauvres.
22 à 23%.
Donc voilà, faire baisser le taux de chômage artificiellement en augmentant la précarité, en augmentant les temps partiels, c'est quelque chose de tout à fait possible. Hein. Même en France, on peut très bien arriver à ce résultat-là assez rapidement. Donc, Macron nous promet le modèle allemand. Il faut prendre conscience de la situation dans laquelle ce modèle-là nous mettrait, quoi.
Et dans la manière dont va être financée maintenant la protection sociale, il y a déjà des signes de ça. Je pense ce à quoi tu faisais référence. Ouais. Quand on fait passer les cotisations sociales directement destinées à l'assurance maladie ou au chômage à la cotisation sociale généralisée, on rentre dans une espèce d'idée, puisque c'est une espèce de grande cagnotte dans laquelle tout le monde verse, etc. Il y a cette idée toujours qu'il y a des assistés à la charge de la société, etc. C'est plus le salarié verse lui-même à la caisse d'assurance maladie, à la caisse d'assurance chômage, qui va lui revenir sous forme de salaire indirect, hein, parce que c'est ça, c'est du salaire indirect, quoi qu'on vous dise, ce ne sont pas des charges, c'est pas des taxes, c'est du salaire indirect. Ça va devenir effectivement le financement d'une espèce de grande boîte à assistanat, en tout cas dans l'esprit et dans le langage du gouvernement. Et il y a cette idée toujours de toujours plus de culpabilisation des chômeurs pour leur faire accepter toujours plus de saloperies, toujours plus de jobs de merde, comme tu le disais. Et c'est vraiment pas une espèce de, comment dire, de, c'est pas le garçon qui criait au loup à propos du modèle allemand. Ça fait 10 ans qu'on nous le vend et en fait il est réellement en train d'arriver. Il est déjà dans les mots, il est déjà dans dans le financement.
Voilà, effectivement, c'est pas forcément l'aspect des ordonnances sur lequel on insiste le plus, hein, cette question du financement du chômage. Moi, pour moi, c'est un des aspects les plus symptomatiques, surtout de ce vers quoi on se dirige. Et en fait, ce glissement-là, c'est pas juste un glissement sémantique, c'est un vrai glissement idéologique qui met en cause l'intégralité de la sécurité sociale à terme.
Et qui est fait juste
pour ça, parce qu'en réalité, dans l'absolu, ça va pas permettre de faire des économies au gouvernement, mais par contre, ça va leur permettre ensuite de faire passer, de rompre complètement avec le modèle français d'assurantiel, de sécurité sociale.
Macron se revendique, mais pleinement et tout à fait le plus honnêtement du monde, du modèle allemand et des réformes Hartz IV de Gerhard Schröder du début des années 2000. Hein. Donc je veux dire, tout ce qu'on dit là, c'est bien, parce que c'est exactement le modèle vers lequel Macron veut aller. Et sur la question syndicale, par exemple, pourquoi est-ce qu'il diminue le pouvoir des syndicats? Pourquoi est-ce que, on le disait tout à l'heure, il convoque de manière secrète à l'Élysée les traîtres Mailly et Berger de la CFDT et de Force Ouvrière? C'est bien parce que le système allemand également syndical, hein, les syndicats majoritaires, puissants, allemands, sont complètement inféodés à une partie de la social-démocratie allemande. Notamment, je rappelle que le pouvoir actuel d'Angela Merkel, hein, il se fait aussi avec la social-démocratie. C'est bien pour ça que Martin Schulz, en ce moment, eh ben, il galère, parce que de toute façon, finalement, il voit pas beaucoup la différence, les Allemands. Et ce système inféodé fait que les syndicats allemands, eh bien, n'appellent pas à des manifestations quand il y a des réformes très conséquentes. Il y a eu des résistances à Hartz IV au début des années 2000, mais des résistances à la base et pas appelées par les centrales syndicales. Et c'est bien pour ça que Macron essaie de faire exactement la même chose avec les syndicats français, qu'il essaie de jouer la désunion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure.
Sauf qu'ici, on est cynique, on est feignant et on est extrême. Et en fait, qu'on est irréformable. Il l'a dit ça aussi, hein, c'est pas moi. Et du coup, on est la génération irréformable. Et...
Donc, soyons-le.
Bon, on va bientôt passer à l'émission suivante, parce que là, à force de meubler en impro, on commence
à
faire de la merde.
Non, non, si, moi j'ai d'autres idées. On peut parler du cortège de tête et de tous les gens qui s'arrachent la tête du cortège de demain. Parce que c'est quand même assez drôle, puisqu'il y a quand même des flics qui ont annoncé vouloir prendre la tête du cortège.
Et des forains.
À Paris.
Et moi, le mélange forains et flics à Paris, j'en attends beaucoup.
Oui, vraiment, mais la France Insoumise aussi. Hein,
les florins, on les appelle.
Ouh là là.
La deuxième, là, t'es...
Non mais
t'es en sursis
du,
là.
Du coup, moi,
c'est terrible.
Troisième, tu genre. Là, tu...
Moi, je regrette de pas être à Paris, parce que je sens que cette bataille pour la tête du cortège entre la France insoumise, les forains et les keufs et les irréformables, qui risquent aussi d'essayer de passer devant. Voilà, ça va être marrant.
Alors Calion, on va quand même se friter.
Mais ouais, je sais pas, on nous a promis des forains à Lyon, alors on n'a pas trop d'infos là-dessus, mais bon, voilà, y aura-t-il des forains? Et suivront-ils l'appel de leur poujadiste leader, Marcel Campion?
Incroyable, incroyable ça quand même. Hein.
Actionnaire principal de la Foire du Trône.
Ouais.
Et sympathisant frontiste et situationniste, vraisemblablement, les deux à la fois, comme c'est possible. Julien Coupin n'est plus seul, à la fois tenir une épicerie et faire des recueils de guides de bord déguisés en ouvrage originaux.
Apparemment, l'explication, c'est que ce Campion n'est pas très très content parce qu'il n'a pas eu l'appel d'offre pour le marché de Noël et que du coup, il en veut vraiment, vraiment, vraiment à Paris et au gouvernement. Et du coup, voilà. Donc, c'est les intérêts personnel. Voilà.
Coupa, c'est le prix des caisses d'Orangina dans sa librairie, dans son épicerie, ça le met colère.
Laisse donc Coupa tranquille un petit peu.
Apparemment, il y aurait des...
Mais c'est une blague.
Il y aurait des fans dans le studio. Bon, bah voilà, on a fini de lire le journal.
La police ne débarque pas tout de suite, on se barre vite.
De faire des blagues méchantes.
Rendez-vous demain, 11h30, manufacture des tabacs. Arrêt ligne D, arrêt sans souci, c'est ça?
C'est ça.
Il y a aussi un rendez-vous à 9h. Bah, il a été annoncé publiquement sur Rébellion. Bon, bah, allez voir sur Rébellion, parce qu'apparemment, j'ai pas le droit de le dire, mais si vous allez sur Rébellion, vous allez pouvoir voir qu'il y a un rendez-vous demain à 9h.
En tout cas, demain, il y a la lutte pour le cortège de tête, il va y avoir le Pink Bloc, ça va être vraiment, vraiment animé et sympa. Mmh.
Oui, donc, venez. Hein.
Voilà, venez. Et puis c'est important.
Venez comme vous êtes.
Et surtout, venez à l'Assemblée Générale. Bon. Alors,
et il y aura peut-être des socialistes. Bah, venez comme vous êtes.
Mais oui, mais j'espère qu'ils vont essayer d'avoir la tête de cortège aussi. Hein.
Venez comme vous êtes, mais habillez-vous parce qu'il va faire froid. Alors,
les socialistes sont courageux s'ils viennent avec leurs petits drapeaux, leurs petits autocollants. On leur souhaite bon courage, d'ailleurs, dans cette manifestation.
Ils sont suicidaires.
Et on lance un concours 10 autocollants envoyés à la radio égale une bière gratuite, un drapeau.
Et une dédicace à l'antenne lundi prochain. Voilà.
D'ailleurs, la semaine prochaine, peut-être qu'on pourrait interviewer quelqu'un de la CFDT qui faisait la manif.
Eh oui, mais tout à fait, j'allais te le dire.
Ah, j'avais que ça à faire, de passer 3 heures à chercher un type avec un drapeau orange dans une manif.
Un drapeau jaune.
C'est exactement mon projet pour demain. Et alors, cette semaine, à part ça, que se passe-t-il à Lyon finalement? Parce qu'on peut faire un petit agenda rapide avant de terminer.
Et à Saint-Etienne, on peut.
Et à Lyon-Saint-Etienne, oui, comme la fusion des universités, hein, Radio Canu maintenant va recruter ses animateurs jusqu'à Saint-Etienne.
À Liévert.
Alors, qu'est-ce qui se passe?
Ah oui, on n'a rien, on n'a pas d'agenda, ouais.
Et ben, pour l'agenda, et ben, on vous donne rendez-vous lundi prochain.
Sinon, 102.2, la plus rebelle des radios. On va aller voir sur Rébellion également, parce qu'il y a un agenda qui est vachement mieux que le nôtre, puisque
puisqu'il n'y a pas d'agenda.
Quoi, déjà.
En fait, l'agenda de Rébellion cette semaine, c'est que le demain, c'est que le 12. Là. C'est toutes les... Il y a pas mal d'agenda pour demain déjà, on l'a fait. On va laisser la place au métal.
Ouais, bah, ça fait quand même 20 minutes qu'on meuble. Donc
on va laisser la place à une vraie émission, du coup.
Mais, et du coup, la semaine prochaine, si tout se passe bien et si ça fonctionne, on aura un magnifique reportage sur la gentrification de la Guillotière qu'on aurait dû passer plutôt que meubler avec ces histoires de Arts 4, tout ça, tout ça.
Et d'épicier.
Ah, merci, merci. Du coup, voilà, la semaine prochaine, on se retrouve.
Une chanson, il reste 40 secondes.
Non. Pour un reportage sur la gentrification.
Je passais sur moi.
Et ben, à lundi prochain pour de nouvelles aventures.